Bonjour, bonsoir, je m'appelle Sylvain Desmentis et vous écoutez le Club Desmentis. Je suis avec ma fidèle amie Maps. Bonsoir, Maps.
Allô, ma choute.
Ah, ma chute!
Toi, tu dois sûrement pas avoir la traduction de choute en anglais, là, je sais
Ah,
pas c'est quoi.
ah non, désolé, je n'ai pas. Je l'ai lu en français, mais ça fait vraiment longtemps, j'avais oublié chute. Mais de quoi est-ce qu'on parle en ce moment? En fait, je vous invite, chers auditeurs, auditrices, dans ce deuxième épisode de Sylvain prête un livre à Maps et on en parle. Ce sera
Et
peut-être
Matt.
une série.
Ben oui, c'est ça.
Donc, aujourd'hui, on vous parle du livre Les Dessous de Hollywood. De Jackie Collins, mieux connu connu en français sous ce titre-là, connu en anglais sous le titre Hollywood Wives. Donc, c'est un livre de Jackie Collins. C'est un livre hautement divertissant. Moi, je l'ai relu pendant que tu le lisais en français. Et je tiens à vous dire, je le dis tout le temps, mais cette fois-ci, c'est vrai là. C'est un club de lecture. On va divulgâcher des choses. Et cette fois-ci, peut-être un peu contrairement au dernier épisode où Adieu à Berlin, c'était plus une chronique, puis il n'y avait pas grand-chose à spoiler ou à divulgâcher en bon français. Et cette fois-ci, il y en a. Il y en a des choses à divulgâcher et on va en parler. Je ne peux pas les retenir, ces divulgâcheurs. Donc,
Non.
tenez-vous-le pour dit. Mais avant qu'on se lance dans le résumé et dans les possibles divulgateurs, moi, je veux savoir, Maps, est-ce que tu le recommandes? Est-ce que tu as eu du plaisir? Qu'est-ce que tu penses de Hollywood Wives?
C'est drôle parce que je parlais avec une amie et collègue aujourd'hui, puis là, elle savait qu'on allait faire ce live-là. Puis elle était comme, c'est quoi donc ce livre-là? Puis j'étais comme, non, 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 pour vrai, là, comme t'aimerais ça. En fait, ce que je trouve particulièrement intéressant de ce livre-là, tu sais, là, j'ai pas vérifié les années, mais tu sais, ici, ça dit 1983. Fait que minimum.
83, c'est aussi vieux que moi, c'est la même année.
Fait que tu sais, quand même, là, ça a une certaine vie, ce livre-là, là, tu sais, ça a pas 20 ans. Puis,
Non.
malheureusement. Mais ce que j'ai trouvé intéressant avec ce livre-là, c'est un, c'est tellement gros, tu sais, le monde de Hollywood, l'abondance d'argent, le pouvoir, les relations, la manipulation. Je trouvais ça tellement plus gros que ma vie, tellement comme inaccessible que je trouvais ça ultra divertissant. Ça, c'était le premier. Puis après ça, mais forcément, quand même, ça a été écrit en 1983, mais on parle de sujets avec une sensibilité de femme. Moi, c'est ça que j'ai trouvé particulièrement flabbergastant. Puis j'ai fait ma critique pour ce livre-là avant qu'on fasse notre live, tu sais, parce que, puis sans divulgation, forcément. Puis ce que je disais, c'est ce livre-là, écrit en 1983 par un homme, c'est gros, ça serait grossier, puis ça serait tout simplement du white boomer, là, tu sais, un discours tellement misogyne, raciste, tu sais, mettez tout ça, ça serait ça. Puis là, on parle de tout ça, puis il y a des commentaires comme ça, mais il y a tout le temps quelqu'un pour faire comme, c'est un peu con ce que tu dis, tu sais. Je me souviens plus si c'est Léon, que Milly, qui est une femme noire. Je me sais qu'il y a un personnage, ça arrive très, au début, c'est la première fois que j'ai fait comme, oh mon Dieu, OK. Puis, il va interroger quelqu'un, puis là, la personne est comme, c'était un N, puis on sait que ces personnes-là, ben, ils sont pas fiables, puis blablabla, puis tout ça. Puis là, Léon, il se retourne, puis il fait comme, ben, en tout cas, je sais pas à qui pense qu'il parle, mais tu sais, moi, je suis en amour avec une femme
Oui,
noire. C'est un con, ce gars-là, tu sais.
oui,
Fait que,
oui, oui,
je
oui,
trouve tout le temps qu'il y avait comme cette couche-là, cette sensibilité de, ben oui, il y a des gens racistes, ben oui, il y a des gens homophobes et tout ça, mais il y a des gens qui trouvent que tout ça, c'est vraiment con, puis ça devrait pas arriver. Fait que je trouvais tout le temps qu'il y avait un sous-texte, tu sais, comme le personnage qui couche avec Karen, là, puis Ross Conti. Le dude, tu sais, il y a plein de blondes, puis tout ça. Mais là, à un moment donné, c'est sa femme qui couche avec quelqu'un d'autre. Il est comme, ben là, c'est pas vrai que je vais être cocufié. Puis là, son amante est comme, ben, tu sais,
Qu'est-ce que tu es en train de
comme.
faire là?
Fait que, tu sais, lui, c'est acceptable, mais que lui se le fasse faire, inacceptable. Fait que c'est tout le temps, là, je trouvais ça tellement intelligent pour ça, ces petits trucs relevés de comme... Il y en a qui trouvent que c'est acceptable seulement lorsque c'est eux qui le font, puis pas lorsqu'ils se le font faire, des choses comme ça. J'ai été hautement divertie, mais j'ai trouvé que c'était hautement intelligent aussi au travers de quelque chose d'époque, puis plus gros que nature, forcément.
Ah, donc, voilà. Mon Dieu! Tellement, tellement! moi, je l'ai relu, puis on dirait, je sais pas pourquoi, j'avais, tu sais... Je l'ai un petit peu comparé aux chroniques de San Francisco pour l'aspect soap, tu sais, l'aspect revirement de situation puis tout ça.
Ouais, il y en a beaucoup.
Que, oui, beaucoup de choses se passent dans ce livre-là. On va y venir, je vous le jure.
Oui, oui.
Mais en fait, ce qui est... C'est drôle, contrairement aux chroniques de San Francisco, tu sais, les chroniques de San Francisco, je m'en rappelle, je peux te dire à peu près toutes les punches. Tu sais, je me souviens bien, je me souviens des personnages, tout ça. Hollywood Wives, chaque fois que je le relis, ou le dessous de Hollywood, chaque fois que je le relis, on dirait que je suis comme, ah, j'avais oublié ça, ah, tel truc. La résolution, ben, un des mystères, ben, il y a un personnage qui est une mère, et on ne sait pas c'est quel personnage qui est une mère, et je me trompe tout le temps. J'ai l'impression que c'est un autre personnage. Ouais. J'ai tout le temps l'impression, mais je vais le dire, j'ai tout le temps l'impression que c'est Elaine, la femme principale, la femme de Ross County.
De Ross.
Mais non, Ross est le père, mais Elaine n'est pas la mère. Puis j'ai comme tendance à oublier ces choses-là.
Ouais.
Bref. Puis j'oublie aussi à quel point c'est over the top, là.
Oui.
C'est incroyable. Oh mon Dieu. C'est drôle parce que ça s'appelle « Les dessous de Hollywood ». C'est un livre... D'ailleurs... Jackie Collins, ce qu'elle écrit, c'est vraiment bizarre parce que Jackie Collins, elle est reconnue pour écrire, et ça, c'en est aussi, là, c'est ce qu'on appelle le roman à clé. Donc ça veut dire qu'elle parle de vraies personnes qui existent pour vrai, mais elle écrit, tu sais, elle change les noms, puis elle écrit de la fiction autour pour faire un roman. Bon. Et elle était... D'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix sur Jackie Collins que je recommande fortement si ça vous intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont venus. Elle a eu une interaction, entre autres, avec un acteur qu'elle n'a pas nommé, qui lui a dit « Je le sais que tu parles de moi, là, je le sais que c'était moi tel personnage là, dans ton livre. » Puis il était vraiment frustré. Puis c'était même pas de lui qu'elle parlait. Puis là, je me dis, alors, elle a cette aura de... patineuse qui révèle les dessous. Ça s'appelle les dessous de Hollywood. Donc, elle a cette réputation, Jackie Collins, de révéler les dessous de Hollywood, ce qui se passe quand la caméra est fermée, là, tu sais, dans les vies secrètes des stars. Et elle a cette réputation-là. Mais quand on lit le livre, là, je me demande comment quiconque a pu prendre ça au sérieux. C'est tellement fou! C'est tellement fou!
Mais en fait, donc, c'est ça la question, parce que moi, j'ai fait un parallèle, là, suis-moi, Sylvain, avec la biographie de Rose McGowan, OK? Okay. Parce que, puis le lien, en fait, c'est que la réalité d'Hollywood est décriée, tu sais, dans ces deux ouvrages-là, comme toutes les aberrations pour avoir des rôles, il faut que tu fasses des couchettes par-ci, par-ça, puis tu sais, c'est des... Je trouve que comme... Tout est, tu sais, tu lis ça là, t'as plus envie d'être vedette de Hollywood là. Alors que habituellement tout ce qui parle de Hollywood, qui parle de films, de stars, c'est tout le temps full glamour, puis tu sais ça donne envie, ça donne le rêve. Mais elle voit en dessous de ça, tu sais, elle voit la vérité, puis c'est probablement ça qui choque parce que ils savent que c'est exactement ça, puis sont comme, tu sais, c'est très malaisant d'être confronté à la stupidité de ce monde-là, là, tu sais, que dans le sens que comme ça fonctionne avec des couchettes, puis ça fonctionne avec le pouvoir, puis il y a rien de glamour lorsque tu lis ça. Puis au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'il y avait absolument rien de cute, tu sais. La biographie de Rose McGowan, c'est ça. C'est comme voici l'enfer que j'ai vécu, tu sais. Pour faire telle chose, on m'a demandé de faire telle chose, on m'a demandé de faire telle chose. J'avais pas le choix de faire telle chose, tu sais. C'est comme fait que là, au moins, ben c'est de la fiction, entre guillemets. Il y a peut-être des éléments de vraie vie, de vraies personnes, mais Mais Rose, lorsqu'on lit Rose McGowan, c'est son histoire. C'est, fait que c'est juste. Fait que, ça, je trouve que comme je pense qu'elle a vraiment un œil pour percevoir la vérité, puis pour l'écrire, puis que ça a l'air drôle et cocasse, c'est magnifique, mais si tu lis entre les lignes, comme moi.
Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est qu'elle rend son histoire vraiment divertissante avec des twists, des punchs, puis des feux d'artifice. Mais oh, c'est vrai que c'est vrai qu'elle parle de choses vraies, elle dépeint un portrait très peu reluisant de Hollywood.
Oui, non, complètement. Là, tout le monde couche à gauche, à droite. T'sais, à un moment donné, je ne savais même plus qui avait couché avec qui, puis qui était l'ex de qui. Puis c'était comme, finalement, tout le monde a couché avec tout le monde.
C'est très consanguin, là.
Oui, oui. on s'entend que la fidélité n'est pas un concept hollywoodien, là.
Non. Le divorce, par exemple, peut-être.
Oui, c'est ça, mais le divorce au bénéfice de, tu sais, comme Hélène, à un moment donné, était comme, ah, je pense que je vais divorcer Ross parce qu'il couche partout. Puis elle est comme, ah, ouais, mais c'est pas gagnant pour moi puis pour ma popularité parce que si j'ai pas Ross, il y a personne qui m'invite à des soirées. Là, t'es comme, hé, c'est proche de maladie mentale, là, comment on parle, là? Vouloir ce pouvoir-là à ce point-là, être au top à ce point-là, se valoriser par l'œil des gens puis par rapport au fait que les gens considèrent que t'es quelqu'un d'important dans un party, là. Ouf.
Oui, ben en fait, tu vois, ça me fait penser à un autre livre que ce livre-là me rappelait, c'est Fleurs captives. Parce que dans Fleurs captives, le personnage de la mère est un personnage exécrable, mais je comprends son évolution psychologique, je comprends comment elle arrive là où elle en arrive, parce que il y a la peau du game, mais tu sais, elle est dedans, là. Elle a la fortune, elle reçoit la fortune, elle reçoit les beaux hommes qui lui courent après, la possibilité d'un avenir. Elle-même, elle a une très petite estime d'elle-même. Elle trouve qu'elle est incapable de rien faire dans la vie, donc elle a besoin d'un homme qui va la... Ben, en fait, c'est pas qu'elle a besoin d'un homme, elle a besoin de la fortune. Donc, la fortune de son père, puis bon, éventuellement d'un homme pour l'aider à vivre, là, tu sais. Puis c'est ça, donc, c'est un peu ce que je comprends de c'est un peu le lien que j'ai envie de faire entre les deux livres, c'est que ce sont des personnages qui n'ont connu que ça, qui n'estiment que ça, la fortune, et la gloire et la fortune, et parce qu'elles y goûtent, elles sont prêtes à tout pour ne pas revenir en arrière. Il veut devenir pauvre, tu sais.
Puis la majorité des femmes semblent ne pas être capables de rien faire, tu sais. Elles font pas à manger, elles font pas de ménage à la maison, elles font des soirées. Donc, tu sais, retourner à la vie ouvrière, est-ce qu'elles savent? Est-ce qu'elles... Ben, tu sais, tout le monde est capable de travailler, mais un peu comme Buddy, il y a un peu ce problème-là, tu sais. J'ai quelques personnages attachants, quand même, que mes préférés. Buddy fait partie d'un, étrangement.
Buddy Hudson?
Oui! Mais tu sais, lui, c'est ça, c'est comme tout ce qu'il a connu. Lui, il aspire à être une grande star. Puis, ben là, au début, il a commencé par les couchettes à gauche, à droite, tu sais, la prostitution, puis tout ça. Puis, on dirait que comme c'est impossible dans sa tête, c'est soit être une grande star ou rien. Genre, il n'est pas capable de penser que comme aller travailler dans un magasin, ça se peut, ou des choses comme ça. Même que sa future femme, que sa blonde, aille travailler, c'est inconcevable pour lui, comme il sait pas quoi faire d'autre, être une grande star ou être une prostituée, tu sais, c'est comme... Il y a tellement une grande échelle entre les deux, mais lui...
Quelques options.
C'est pas possible, tu sais, c'est comme... Ça me
fascine. En fait, je pense que c'est pas possible parce qu'il s'est... Ben, pas habitué, mais... En fait, je pense que c'est le problème de beaucoup de gens dans ce roman-là, mais c'est aussi le problème de beaucoup de personnes dans la vie, c'est-à-dire que on a été bercé par le rêve américain, l'idée que t'es personne si t'es pas quelqu'un. Ouais. Donc, c'est ça, je pense que le personnage de Buddy, il a besoin, tu sais, il peut pas juste être serveur dans un restaurant. Lui, il veut faire de la coke, avoir des beaux vêtements, tu sais, avoir des amis célèbres. Fait que c'est soit la prostitution qui va lui apporter tout ça, ou être une star, tu sais.
Ouais. Il n'y a pas d'entre-deux.
C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas capable de voir les autres options, tu sais.
Mm-hmm. Mais c'est quand même fascinant comme personnage à cause de ça, tu sais. Puis ça a l'air quand même d'un bon Jack, là. Pour moi, tu sais, il essaie de faire de son mieux pour Angel. En tout cas, il essaie, là, à la limite de Hollywood.
Ben, je le comprends. C'est drôle parce que je veux vraiment pas comparer Hollywood Wives à Adieu à Berlin. C'est deux livres complètement différents. Mais j'ai parlé du personnage de Sydney dans Place Melrose, dans notre autre épisode. Puis c'est un peu ce que j'ai envie de dire ici, c'est que Sydney, c'était une jeune femme qui, justement, s'est retrouvée dans la prostitution, s'est retrouvée danseuse nue. C'est une jeune femme qui voulait... Elle pense que la seule façon d'être heureuse dans la vie, c'est en ayant l'amour d'un homme. Puis, parce que c'est ça sa conviction... Elle va aller faire des choses qu'elle ne devrait pas faire, mais elle, tu sais, c'est un peu une vilaine, mais c'est comme pas de sa faute. Elle est jeune et innocente, puis elle cherche l'amour à mauvaise place, tu sais. C'est ça qui se passe. Je pense que Buddy partage ça beaucoup avec ce personnage-là. Quoique Buddy a une épouse qui est vraiment agréable avec lui et vraiment patiente.
Oh mon Dieu, elle porte son nom, Angel.
Angel, c'est un petit ange.
Ben, littéralement. Là.
Mais rapidement, là, parce que, tu sais, on a fait zéro synopsis, mais rapidement, j'aimerais parler des autres personnages. Le personnage principal, j'ai envie de dire, ou en tout cas la première qu'on rencontre, c'est Elaine Conti, qui est la femme de Ross Conti. Et elle, son backstory, c'est qu'elle a été grosse quand elle était jeune. Et elle a été humiliée, elle se sentait vraiment pas bien dans son corps et en société. Et là, maintenant qu'elle est jolie, en fait, je pense que c'est ça qui motive ce personnage-là. Puis c'est ça qui la pousse à vouloir rester dans cet univers-là parce que, à moins que je me trompe, mais Elaine n'est pas une actrice, là. Elaine ne travaille pas dans le domaine du cinéma, c'est juste l'épouse de Ross Conti, le grand acteur, une espèce de Sean Connery, là, tu sais. Et donc, elle, sa motivation, c'est pas de faire un film ou d'être populaire, sa motivation, c'est de rester dans cet univers-là parce qu'elle veut pas redevenir... Ah, j'ai oublié son... Etty, la jeune femme qu'elle était... quand elle avait trop de poids à son avis à elle. Ensuite, donc ça c'est Elaine, peut-être le personnage principal. Ensuite, on a Buddy et Angel. Et on a un autre couple, Montana et... juste pour faire exprès, j'oublie son nom de famille à lui. Neil. Montana et Neil. Montana est une jeune scénariste, jeune femme scénariste. Et son mari est réalisateur et ensemble, ils travaillent sur Street People, donc leur prochain film, donc écrit par elle, réalisé par lui. Et donc, là, c'est la grosse affaire. C'est un peu la situation principale de ce livre-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre-là. Les gens se croisent et se décroisent et décroisent beaucoup de jambes. Et l'histoire principale, c'est qu'on cherche à faire ce film-là qui est promis à un succès phénoménal parce que tous ceux qui ont lu, rares sont ceux qui ont lu le scénario, mais tous ceux qui l'ont lu le trouvent exceptionnel. C'est la prochaine grosse affaire. Quiconque va participer de près ou de loin à ce film-là va devenir une superstar. Donc, c'est la grosse affaire à Hollywood en ce moment. Et donc, Elaine va essayer de pousser pour que son mari devienne un des acteurs de ce film-là. Buddy va tout faire pour essayer de jouer dans ce film-là. Et il va se passer aussi des choses avec Montana et Neil qui vont travailler sur ce film-là, voir leur rêve et leur... Enfin, ils vont vivre certaines déceptions par rapport à ce projet-là. Et finalement, en background, là, à peine visible, il y a un psychopathe avec une machette qui tue des gens.
Oh mon Dieu, oui, Decky!
Oui!
Dick?
Dick, Decky, Dick. Je pense qu'on pourrait dire Dick.
Dick?
Mais ça, c'est quand même... Puis ça, c'est une des choses que j'oublie parce que ça s'appelle Hollywood Wives. La couverture est rose, puis ta couverture est à toi. C'est comme du monde riche, là, dans un party. Puis il n'y a personne qui parle à quel point c'est violent. C'est un film d'horreur, là. C'est comme un soap opéra entrecoupé de scènes de films d'horreur.
Moi, je dois avouer quand même que c'est Dicky qui a fait en sorte... Ben, Léon puis Dicky qui ont fait en sorte que j'ai embarqué en premier. Parce que, c'est pas l'histoire de Eileen que je trouvais particulièrement intéressante. Puis, tu sais, toutes ces histoires-là, riches et célèbres, on dirait que ça m'a pris du temps. J'ai aimé l'histoire de Buddy et Angel, puis elle m'a fait mourir, cette histoire de non-communication par personne interposée, là. Oh mon Dieu, j'en pouvais plus, là. J'étais comme, ils peuvent-tu juste se parler? Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est ça. Lorsqu'il y avait Léon, j'aimais ça. Ça partait comme un bon vieux policier, mais finalement, un policier qui s'est pas laissé corrompre, mais qui... en tout cas, qui est allé beaucoup trop loin ou qui a laissé les choses aller beaucoup trop loin puis qui est comme pris dans un truc vraiment weird et tordu. Puis Decky de l'autre côté, qui est juste comme sans connaissance, un violent psychopathe. Puis, tu sais, on le voit là dans sa tête, il est comme « je suis le gardien de l'ordre ». Puis là, dès que quelqu'un rit, il pense qu'il rit de lui. Là, il est vraiment psychologiquement atteint. Là. Et j'ai trouvé que c'était du bonbon. C'était délicieux.
Mais c'est ça, je m'attends jamais. On dirait, je sais pas, c'est un élément que j'oublie, mais on est, tu sais, il y a certains chapitres de ce livre-là, les chapitres dans lesquels on suit Dicky, on est, ou Dick, encore une fois, j'oublie, je ne sais pas c'est quoi son nom, mais on est dans sa tête, puis pour moi, là, c'est comme un roman policier ou un roman d'horreur où on est dans la tête d'un tueur sur la route. Là. Il y avait d'ailleurs Un tueur sur la route, c'est un titre de roman d'un auteur dont j'oublie le nom. Je vais essayer de le retrouver. Mais tu sais, c'est ça, là, c'est malsain. Là. On est dans sa tête. On voit comment il perçoit les femmes. On voit comment il fait juste comme tuer du monde à gauche, à droite, sur son chemin. C'est vraiment dark, là. C'est vraiment... Tu sais, c'est pas juste des petits potins de vedettes, là. C'est un film d'horreur. C'est vraiment ça.
Ah oh non, c'est l'autre. Puis, tu sais, toute la relation avec Joey. Tu sais, le premier... Moi, ce qui m'a vraiment happé, là, c'est le premier chapitre. Ah, oh, je pense que José voulait t'aider à l'écrire James Ellroy.
Ah, James Ellroy, oui, c'est ça. Merci beaucoup.
Ça commence avec ça, le premier chapitre, là, la mort de... Ben, en fait, son premier crime, là. Puis après ça, on va un peu retourner... Ben, on va pas retourner dans le temps, mais on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'étais comme... Je commence le livre, les Dessous de Hollywood! Puis je suis comme... Ah! Le prologue, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, on commence à rencontrer Eileen, puis tu sais, la vie des gens riches et célèbres. J'étais comme, non, mais c'est quoi le rapport avec le premier chapitre? Fait que tu sais, ça, je trouve que c'est quand même bien fait. C'est une bonne accroche, tu sais. Tu pars avec quelque chose de poignant, puis t'es comme, attends, tu peux, on va te donner les clés, ça sera pas long, là. Mais j'ai trouvé ça, tu sais, c'était vraiment bien fait. Tu sais, comment il percevait les choses, comme tu disais, par rapport aux femmes, puis ce qu'il recherchait aussi, on dirait que c'était long. Là. J'étais comme... Tu sais, ça prend un temps avant de comprendre. Puis même moi, tu sais, je te posais des questions, puis là, tu voulais pas me répondre. J'étais comme, est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'était sa sœur, Joey? Puis là, j'essayais, tu sais, on a tellement pas d'infos. Fait que c'était vraiment le fun de, comme, moi, ça a été un de mes plaisirs d'essayer de découvrir c'était quoi l'histoire de ce Dick. Puis de comprendre c'était qui les personnes qui étaient mortes par rapport à lui. Puis le processus, puis de voir juste qu'il était complètement coucou, là, tu sais. Il est comme, il arrête pas de parler à Joey, mais en même temps, Joey, c'est lui qui l'a tué, puis il est comme, ça...
Toutes les femmes sont Joey, puis...
Oui, c'est ça. Il va plus clair, là. C'est vraiment intéressant. Ça clash énormément, mais vraiment intéressant.
J'aimerais te demander un petit service, parce que toi, tu l'as en français. J'aimerais que tu me lises la première phrase, non pas du prologue dont on vient de discuter, mais la première phrase du premier chapitre.
celui de Eileen.
Oui.
Eileen Conti s'éveilla dans le luxueux lit de sa luxueuse résidence de Beverly Hills.
C'est ça. Moi, là, cette écriture-là, quand je l'ai lue en français, ça marche moins bien en anglais. Mais quand je l'ai lue en français, là, j'entendais la voix de Cricket Rockwell. Tu sais, elle se réveille dans son luxueux lit de sa luxueuse résidence de Beverly Hills. Tu sais, il y a quelque chose de comme over the top. Puis en fait, ça, c'est quelque chose dont je veux vraiment parler. J'ai beaucoup comparé Jackie Collins à Taylor Jenkins Reid. Parce que, ben, premièrement, Malibu Rising, c'est... Il y a beaucoup de points en commun avec ce livre-là. Les deux se passent en 1983. Les deux, c'est sur des familles célèbres et riches. Les deux, il y a beaucoup de personnages qu'on suit. Les deux convergent vers un party. Puis les deux, il y a des secrets de famille puis des choses qu'on va apprendre. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments qui se ressemblaient. Puis quand je pense à Jackie Collins, c'est que moi, là, Jackie Collins, je la vois... Elle est décédée malheureusement et c'est vraiment très triste. Mais moi, je la vois derrière son clavier là, puis faire « Ah, oh, elle s'éveilla dans son luxueux lit, de sa luxueuse résidence de Beverly Hills. » Je la vois avoir du fun. Alors que quand je lis Taylor Jenkins Reid, ce que j'entends, c'est « Les hommes sont des salauds et si les femmes sont assez fortes, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. » Puis Jackie Collins est là, « Les femmes, c'est toutes les hommes, c'est toutes des salauds, puis les femmes sont capables de faire tout ce qu'ils veulent. Ah ouais, go girl, t'es capable! » Tu sais, il y a comme une espèce de joie de vivre que j'ai en lisant Jackie Collins, une espèce de plaisir. Je sens le plaisir qu'elle avait à écrire, tu sais.
Au-delà Je suis de... complètement d'accord avec toi. Il y a vraiment un bonheur des choix dans l'écriture. Ça donne envie, puis c'est drôle, puis c'est tellement gros que tu sens que c'est voulu, tu sais, que c'est réfléchi pour qu'il y ait deux fois le mot luxueux dans la première phrase, puis que tu sais, comme ton affaire, là, tu disais le doigt, elle pointa du doigt manucuré, tu sais, comme...
Non. Ça, cette phrase-là, je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours.
Vas-y.
Elle pointa vers lui un doigt accusateur et parfaitement manucuré.
J'adore ça! C'est le détail qui change toute la donne, qui fait en sorte que c'est pas juste sérieux, que c'est sérieusement drôle.
Oui, elle a du fun. Puis puisqu'elle a du fun, moi j'ai du fun.
Exactement, complètement d'accord.
Et puis, c'est ça, et là, il y a des révélations, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses, là, que j'aurais jamais pensé lire. Il a fallu que je Google, est-ce que c'est possible qu'un homme reste pris dans une femme?
Hey, mais ça, j'avais déjà entendu parler de ça.
J'avais jamais entendu parler de ça. Là, je suis terrifiée et très heureux d'être gay. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
Bon, on s'entend que c'est comme dans des circonstances exceptionnelles, mais je pense que c'était peut-être dans une affaire comme Grey's Anatomy, tu sais, il s'en passe des affaires médicales ou dans House. Mais j'ai plus écouté Grey's Anatomy, mais effectivement, mais quoi que c'est surprenant que ça soit un cas dans cette émission qui est plutôt jeune. En tout cas, mais ben je sais pas. C'est pas, tu sais, des cas sexuels, mais oh mon Dieu, c'est quand même très drôle et très ridicule, mais sachant que ça peut être vrai qu'on, tu sais, lors d'une relation sexuelle, un homme peut rester pris à l'intérieur d'une femme, mais c'est ça, c'est un processus particulier du corps de la femme, là, puis il faut qu'il y ait des dispositions X, Y, Z, mais oui!
je n'arrivais pas à croire que ça se pouvait, en fait.
Mais moi, ce qui était encore plus over the top, c'est que lui est en train de faire des arrêts cardiaques.
Oui.
Pendant qu'il est pogné dans elle. Oh, mon Dieu!
Oui, et déjà, il y a ça qui n'a pas de bon sens, mais extérieur à ça, c'est le fait que c'est Neil qui trompe Montana avec une actrice qui veut absolument un rôle dans le film de sa femme.
Oui.
Puis qui l'a menacée aussi. Ah, ça, c'était bon aussi. Là, il avait déjà couché avec elle, puis elle l'avait filmé tu sais, là, dans le temps, là, qu'on filmait les gens avec on avait des VHS, là, puis c'était
elle avait
c'était
la cassette.
Des menaces. Ouais, j'ai la cassette, là. Ah, mon Dieu. Puis c'est ça. Puis là, il y a cette situation-là qui se passe, puis là, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce que là, ça va appeler, les journalistes vont se mêler à ça. Ben ouais. Puis oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Puis l'autre est en train de mourir alors qu'il est en elle.
Oui.
Ça n'a pas de sens.
C'est quand même vraiment over the top. Moi, dans cette situation-là, j'étais vraiment Team Montana, là, fait que j'étais comme bien bon pour lui, est-ce-tu, là?
Mais c'est la seule personne. Je pense que c'est la personne pour laquelle j'avais le plus d'empathie et je voulais le plus voir réussir, tu sais.
Ouais.
C'est la seule personne qui est droite à Hollywood, j'ai l'impression.
Ouais.
T'sais.
La fin est quand même triste un peu pour elle.
Mm.
Tu sais, dans le sens, c'est comme...
Il y a quand même une porte d'espoir, là. Il y a quand même une possibilité que son projet se réalise, puis qu'elle, tu sais.
Ouais. Mais tu sais, j'étais comme, ce qui est le plus important pour elle, c'est son film, puis après toutes ses péripéties, mais il n'y en aura pas de film, là, fait que je trouvais ça triste pour elle, puis en plus, sa père Neil qu'elle aimait, puis qu'il était drette jusqu'à temps qu'il trouve les seins de Jean, puis...
Oh, ça, c'est un autre nom fabuleux, là. Gina Germain.
Oui.
Oh.
Il y a aussi une petite fascination pour les seins hein, dans ce roman-là. Ben, particulièrement Ross, là. Ross, là, puis les seins à Karen. On entend beaucoup parler. Il aime bien les filles avec des gros seins. Gina, d'ailleurs, ça y passe dans les yeux, là. Hop là. Mais, tu sais, j'aurais pensé qu'on aurait été tant qu'à y aller dans la caricature, tu sais, dans les seins pour certains personnages, dans les fesses pour d'autres, mais non, on est très boobies là-dedans. Mm-hmm. Tout le monde trippe sur les seins.
Ouais, mais en fait, je pense que, je veux pas dire que ça reflétait, les seins, c'était vraiment un sujet de conversation à Hollywood à ce moment-là, là, tu sais, c'était vraiment ça. C'était qui a la forme parfaite, qui a les seins, tu sais. Qui a des vrais. Tu sais, moi, je me souviens de John Crawford, là, qui avait eu des implants. Puis, tu sais, c'était pour Whatever Happened to Baby Jane. C'était comme un film des années 60, là. Fait que, tu sais, les implants, c'est pas nouveau, là.
Non, c'est ça. Gros sujet, les seins.
Les seins. les seins. S-E-I-N, parce que les seins S-A-I-N-T, il n'y en a pas beaucoup à Hollywood.
Mais il y a le gardien de l'ordre pour vous.
Il y a le gardien de l'ordre. Et il y a aussi ce policier qui est à la recherche, à la poursuite du gardien de l'ordre.
Mm-hmm. Léon.
Léon. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Là. Moi, honnêtement, ces chapitres, c'est sûr que je trouvais peut-être un peu moins intéressant, là, dans le sens que ça prend quelqu'un pour nous expliquer comme... où s'en va l'enquête par rapport au tueur en série qu'on recherche, puis pour nous maintenir un peu dans le suspense de qu'est-ce qui va se passer avec lui. Parce que quand je disais plus tôt que c'est un tueur sur la route, c'est littéralement un tueur sur la route.
Oui, oui.
Il est à des 1000 kilomètres de l'action du reste du roman. Là. Il n'est pas à Hollywood pantoute. Là. Il arrive à Hollywood comme à la fin du livre.
Il débarque. Oui, oui, il est tout le temps sur la route. Là. Il va quelque part pour rencontrer quelqu'un puis tuer quelqu'un d'autre. C'est comme... C'est une route sanglante.
Mmh.
Définitivement. Moi, Léon, je pense que la seule déception que j'ai eue, c'est qu'il y avait justement cette histoire-là avec Joey. Tu sais, j'aurais aimé que ça soit plus pur, mais en même temps, je comprends qu'on n'est pas dans la pureté d'Hollywood, là, tu sais, on est dans le dirty. Fait que... Mais ça a été, je pense, ma déception. Que comme... finalement, qu'il soit passé quelque chose avec Joey. Fait que là, j'étais comme, oh, t'es un peu moins le fun que j'ai aimé au départ. Puis, tu sais, tu recherches le tueur, dans le fond, parce que tu te sens coupable. Fait que, tu sais, j'étais comme, ouais, c'était ma déception. Là. Sinon, tu sais, il a perdu sa femme à la fin. Tu sais, Millie, on l'a vraiment pas rencontrée. Il y a eu ce commentaire-là, comme quoi c'était une belle femme noire, puis, tu sais, qu'il trouvait con le commentaire de l'autre. Là. Mais après ça, tu sais, j'étais comme, oh, il me semble que j'aurais pris plus de elle ou, tu sais, j'aurais trouvé au moins quelque chose de plus intéressant que d'être juste le policier qui a été corrompu par une jeune prostituée. Là.
Mm.
Ou en tout cas, peut-être pas corrompu, mais...
C'est vrai qu'elle est... Ben, c'est pas grand-chose, puis à un moment donné... À un moment donné, elle décide, tu sais, elle fait un petit bout du voyage avec lui, là, mais à un moment donné, elle rentre à la maison, puis elle est tannée, puis elle comprend que le voyage ne sert pas à les rapprocher, mais à chercher un tueur.
Oui, c'est comme si elle sert juste à y mettre des bâtons dans les roues, tu sais. Ouais, c'est ça. Qu'il soit comme, ah, oh, ben non, faut pas que je travaille là-dessus. Ah, oh, non, faudrait pas que je fasse ça. Mais comme, au final, on sait que tu vas le faire. Fait qu'arrête, là. Ouais. Elle a comme un drôle de rôle comme personnage. Mm-hmm.
Ouais. Puis maintenant que tu m'y fais penser, c'est vrai que, ben, tu sais, c'est un roman écrit en 1983.
Oui, oui.
C'est aussi la seule personne de couleur de tout le livre, là.
Oui, qui est mentionné, en tout cas.
À l'exception, peut-être, des domestiques.
Oui, complètement. Complètement.
Fait que c'est vraiment pas... C'est très blanc, là. C'est très Hollywood blanc, là.
Oui, je cherchais justement la mère de Deke. Elle était-tu blanche? J'avais l'impression qu'elle avait des origines culturelles.
Ah!
Elle a son nom m'échappe.
La mère adoptive?
Non, la vraie mère.
Ah oui, ok. Wines. Elle aussi, elle a un nom, là.
Oh, Sadie.
Sadie LaSalle.
Sadie LaSalle.
Hmm.
Mais c'est flou, là. Mais j'avais l'impression qu'elle avait des origines comme latino. Mais c'est peut-être ma perception, ou comme, en tout cas, le casque que je lui ai mis dans. T'sais, que, moi, j'ai cassé du monde, puis elle avait ce casque-là.
Ah oui, peut-être. Je me souviens pas, malheureusement.
Ouais.
Mais bon, donc c'est ça. Donc, ultime révélation, Sadie LaSalle qui est l'agente. Donc ça, c'est l'agente de Hollywood. Tous les acteurs veulent travailler avec elle. Elle s'est fait une place en lançant la carrière de Ross Conti, qui est son ex, avec qui elle a eu des jumeaux.
Hey, ça là, lorsque j'ai compris que Bonnie puis Dick, c'était des jumeaux, ça c'était comme la couche que genre j'étais pas prête puis j'avais pas besoin là, mais...
Non mais moi là, c'est que, tu sais, je pourrais jamais ne pas aimer un livre qui emploie sérieusement la twist du jumeau diabolique inconnu à ce jour.
Ben oui.
C'est trop bon. C'est trop cliché, mais c'est tellement drôle, c'est tellement over the top.
L'affaire, c'est que c'était pas tant nécessaire.
Ben, c'était le fun parce que quand Deke va voir Angel, il la connaît, elle ne le reconnaît pas.
Ouais, puis là, lui voit le portrait.
Joey, fait que...
Puis là, lui, il voit le portrait de Buddy, puis il pense que c'est lui, puis là, vu qu'il est complètement tordu, ben...
C'est ça.
Ils se ressemblent, tu sais, mais ils ont tellement jamais été dans la même ville, tu sais, il n'y a pas eu d'autres méprises, fait qu'on n'avait aucun indice non plus que ça allait arriver, là, parce que, ben, les deux personnages n'ont jamais été proches l'un de l'autre, fait que, tu sais, on dirait que c'est comme vraiment sorti d'un chapeau, là, comme, voyons, des jumeaux, oh Seigneur!
C'est tellement parfait. Puis là, ça veut dire que... Parce qu'il ne faut pas oublier que Sadie LaSalle essayait de rendre jaloux Ross Conti en moussant la carrière de Buddy Hudson.
Ouais.
Le petit jeune, elle faisait les mêmes stunts publicitaires qu'elle avait fait à l'époque avec Ross Conti. Donc, il y a cette espèce de confrontation-là. Ross Conti, Buddy Hudson, le plus vieux, le plus jeune, l'espèce de relève qui pousse... Les plus vieux. Et c'est son père!
Oui, c'est ça. Ce qui est comme finalement intéressant dans cette loupe-là, mais oui, lorsqu'on découvre ça, t'es comme, bah, ben, il y avait tout et dans tout. Hein? Ça a dit, elle a vu la fibre dans Ross, elle a vu la fibre dans Buddy.
Tout et dans tout. Puis on parle aussi...
J'allais dire qu'elle s'est pas rendu compte que c'est son fils. Par contre...
Ben non, mais c'est ça, tu sais, elle l'a pas vu, là, elle l'a pas vu grandir, mais...
Non, c'est ça.
Je sens que je passe à un autre sujet vraiment, vraiment petit et secondaire après avoir la grosse révélation, mais moi, j'ai trouvé ça rigolo que Elaine a un problème de kleptomanie, juste parce que ça fait tellement star des années. Tu sais, il me semble, ben, Winona Ryder, il me semble qu'elle avait volé, elle avait fait du vol à l'étalage. Tu sais, on entend des fois parler de certaines vedettes là, qui font ou des personnes riches qui font du vol à l'étalage juste pour le kick. Puis, je sais pas, j'ai vraiment aimé que ce soit là.
Oui, puis ça avait une raison d'être éventuellement parce que lorsqu'elle se fait pogner, il faut vraiment qu'elle sorte, puis là, ça marche pas, puis là, elle est comme, oh, il est ma soirée, là, puis moi, j'étais vraiment stressée pour elle, j'étais comme, hey boy, puis pourtant, c'est con, là, c'est une soirée de riche, puis, mais, ouais, c'était vraiment intéressant, puis c'est vrai que ça faisait cliché, mais comme, cliché, mais en même temps, représentatif, tu sais, de ce qui se passait à ce moment-là.
Oh oui, puis elle est obligée de rejoindre son mari. Son mari,
oui.
Qui, elle le sait, est avec sa maîtresse.
Oui. Oui, il y a vraiment tout le temps une couche de plus.
Il y a vraiment comme... Oh. Puis tout le monde se connaît, puis tout le monde couche ensemble. C'est comme... Oh. C'est ça.
Puis tout le monde le cache que t'es en train de... En tout cas, le cache à la personne principale que t'es en train de coucher avec son mari. C'est comme... Ils sont des meilleurs amis, tu sais, mais elle couche avec son mari. Dans son... Ben, forcément. Ça, non, c'est tout le temps. C'est ça qui est intéressant quand même avec ce livre-là. C'est au début, je pense que ça prend du temps parce qu'il y a forcément beaucoup de personnages. Puis, tu sais, moi, lorsqu'on s'en est parlé rapidement, on s'est rendu compte qu'on voudrait en parler ensemble. Puis, j'ai commencé à prendre des notes. Puis, ça, je trouve que ça m'a aidé. Pas nécessairement pour les relire, mais tu sais, juste pour me dire, OK, lui, c'est le chum de tel. Puis, juste pour avoir comme une idée globale de ce qui se passe. Parce que, puis il rajoute tout le temps des personnages au fur et à mesure, il continue d'en avoir d'autres qui ont des liens avec les personnages. C'est comme ça finit jamais, là. Mais c'est sûr qu'il y en a des principaux, mais pour avoir ça campé, tu sais, ça prend quand même un petit moment, je trouve, avant qu'ils reviennent. Puis on est comme, OK, oui, Hélène, Ross, Montana avec Neil, Marali qui est l'ex de Neil, puis tu sais, c'est comme.
Oui, oui, c'est ça, l'ex de un, le chum de l'autre, puis.
Ouais, non, c'est ça.
Elle, c'est son ex, mais là, elle sort avec l'ami de Buddy qui est là comme quelques cinq.
Oui, non, c'est ça.
À un moment donné, il y a une Française qui s'appelle Coco. Je pensais qu'on allait la voir comme une scène, puis finalement, elle revient à la fin, mais comme 400 pages plus loin.
Ah non, c'est... Okay. Il y a des personnages de trop, là. On aurait pu élaguer un peu, là. Mm. Mais... C'est ça, il faut quand même traverser un petit peu. Puis je pense que c'était ta peur pour moi, là, qu'il y ait pas trop de monde. Puis
je trouvais qu'il y avait pas mal. Oui, c'est ça. Tu sais, je pensais que. Je savais pas à quel point tu allais aimer ça. Mais c'est vrai qu'on suit quand même. Tu sais, il y a un certain ordre et on suit quand même les trois épouses, là, parce que c'est les trois épouses d'Hollywood. On suit chacune des trois, une après l'autre. Puis tu sais, il y a quand même un certain ordre à ce niveau-là. Là.
Oui, je pense qu'avec multitude de personnages, tu finis par t'intéresser plus ou moins à certaines
histoires
aussi, là, ce qui peut être un avantage ou un désavantage parce qu'il y a certaines histoires qui ne t'intéressent pas, mais il y en a d'autres que tu veux comme continuer à lire. Là. Mm-hmm. Ce qui a été mon cas, là, moi j'étais comme Buddy puis Angel, là, toutes les fois qu'ils étaient là, j'étais comme « je suis là!
»
Moins les épouses, là, mais
voilà. Ouais. Ben, en fait, je pense qu'Angel est comme, elle est une des trois épouses, là, si tu veux.
Ouais. Éventuellement, qui sera une star de Hollywood.
Possiblement. Ça, c'est comme... Mais je suis content qu'elle n'ait pas été... Que Jackie Collins n'ait pas été full là-dedans, là, parce que, tu sais, c'est vraiment à un moment donné, le voisin qui se trouve être le voisin de Angel et Buddy se retrouve à être le producteur du film de Montana et Neil. Puis là, il va la voir... « Ah, mais attends, là, t'es tellement belle, là, il faut que tu sois dans un film. » Ça, là, je m'excuse, mais ça, c'est le... Mais tu sais, je suis content que ça n'ait pas été dans cette direction-là complètement. Tu sais, elle n'est pas devenue une superstar, puis tout non. Ça, tu sais. Parce que ça, c'est le genre d'affaires qui ne se passent pas, là. Moi, je me souviens des agences de mannequins. Quand j'étais adolescent, dans le temps de la série Diva, là, il en parlait beaucoup du mannequinat et il y avait une des choses qui avait été dénoncée, c'est justement qu'il y avait des directeurs d'agences de mannequins qui attendaient des petites filles à sortir des écoles secondaires. Là.
Mm.
T'sais, fait que, puis là, ils attendaient, puis là, ils en trouvaient une belle, puis là, ils l'accostaient, puis tout ça. C'est vraiment très prédateur là, comme façon d'approcher les filles. Fait que, tu sais, je dis pas que ça n'existe pas, mais tu ne deviens pas Meryl Streep parce que tu as été découvert dans la rue. Tu es découvert dans la rue parce que t'es belle, mais ça veut pas dire que t'as du talent, tu sais.
Non, non, c'est ça. Puis c'est le fun que on a quand même un personnage plus pur que les autres. S'il y en a une qui est pure, c'est Angel, là. Elle s'en va travailler dans un magasin, dans un, voyons, j'allais dire un magasin de coiffeur. Dans un endroit de
Un
coiffeur,
salon de coiffure.
un salon de coiffeur, puis tu sais, là, she's gonna have a baby, puis c'est comme elle espère donc bien que son body, tu sais, il revienne, mais en même temps, elle lucide, qui est comme, tu sais, si ça marche pas, je vais l'élever tout seul, puis ça va être. On dirait qu'elle a quand même quelque chose de plus humain, plus accessible que les autres. Elle veut croire en cet amour-là, c'est incroyable, mais si ça marche pas, elle se dit, bon, ben. Je vais faire ma vie autrement, puis c'est ça, là. Fait qu'elle est vraiment sweet.
Oui, puis tu sais, elle veut même pas être une star. Elle se fait offrir un rose ou un plateau d'argent, puis ah non, moi je ne veux pas être une actrice. T'es bien la seule personne à Hollywood qui veut pas être actrice,
Non, c'est ça, Neil, il ne revient pas, il est comme, ben voyons donc que quelqu'un dirait non, tu sais.
là.
Tout le monde se garoche pour les rôles, puis tu sais, ils s'entretuent, puis ils se manipulent, puis elle est comme non, merci.
Non, je ne le veux pas. Un petit détail qui m'a vraiment plu aussi, c'est que ben, il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, dont je me souviens même plus du nom, mais qui est comme un vieil acteur retraité, puis ben, pseudo-retraité, là. Puis finalement, il se fait
Georges?
approcher. Georges, oui, c'est ça, je pense que c'est ça, Georges. Puis il se fait offrir le rôle qui allait que, en fait, Elaine poussait pour que son mari Ross obtienne un rôle dans le film Street People et finalement, au gros party là, qui servait justement à promouvoir son mari,
Ouais.
le producteur décide d'annoncer que c'est l'autre acteur qui va avoir le rôle finalement. Ça, là, j'ai tellement trouvé ça bon. La frustration d'Elaine qui fait comme. Mais c'est mon party! C'est mon argent, là, qu'on dépense tout.
Ouais, non. George Lancaster.
George Lancaster.
Puis lui, c'est comme sa femme. T'sais, lui, il a comme plus d'intérêt pour ça, mais faut gérer avec sa femme pour qu'il y ait ce rôle-là. Ah non, c'est vrai, lui, c'est une couche de plus aussi, là, dans qui va avoir ce rôle-là. Puis lui, il le veut pas, mais tout le monde veut y donner parce que. Mais en fait, il est même pas si bon. Il est fucking détestable. Il
Oui,
est
c'est
super
vrai.
désagréable. Mais il est connu, puis t'sais, ça va faire vendre. Fait qu'on veut George Lancaster.
Mais ça, tu vois, oui, vas-y, vas-y.
Non, non, c'est ça. J'étais comme tout ça et Hollywood
Et Hollywood.
Wives.
Mais c'est ça, moi je trouve qu'il y a ça de vrai. Mais pas, on s'entend que c'est un roman de fiction avec un jumeau. Un evil
Maléfique.
twin, un jumeau maléfique inconnu à ce jour. Mais il y a ça de vrai, c'est que caster un film, là, c'est mathématique, c'est mettre telle personne va nous rapporter de l'argent, c'est l'espèce d'écran de fumée qu'on a, nous qui ne travaillons pas dans l'industrie, de
Ouais.
ah, c'est la meilleure personne qui a obtenu le rôle. Non, ce n'est pas la meilleure personne, c'est la personne qui allait faire le plus d'argent, qui allait rapporter le plus d'argent. Tu sais, il y a. Puis après, oui, il y a des tests de chimie entre les acteurs, puis oui, il y a des trucs, tu sais, il y a des décisions qui sont prises basées sur qui est le meilleur pour le rôle, mais l'argent pèse lourd là, dans la balance, tu sais. Fait que ça, je trouvais que c'était bien illustré. C'est vraiment de la politique. Faire un film, c'est de la politique.
C'est vraiment intéressant parce que tu sais, je suis allée voir le balado là, de les retrouvailles de Radio Enfer, puis ils ont abordé un petit peu ça, le casting, parce que Radio Enfer, là, pour les gens qui connaissent peut-être pas, c'était une émission qui a commencé, je pense, un petit peu avant les années 2000. Au début, tu sais, ils ont fait des pilotes, puis ça fonctionnait vraiment beaucoup. Mais il n'y avait personne dans l'équipe de Radio Enfer, c'est ça qu'ils disaient, tu sais, à l'époque, il n'y avait personne qui était une grande star. Puis, il y a des producteurs qui voulaient, genre, Charles Lafortune à la place de Karl Le Cat Charest pour avoir des visages connus. Puis, le producteur délégué, lui, s'est vraiment battu corps et âme pour que ça soit un peu tous des nobody, parce qu'il voulait que le show soit populaire plus que les vedettes. Mais c'est vraiment hors norme de penser comme ça. T'sais, c'est vraiment pas ce que les gens font habituellement. Habituellement, ils cassent des vedettes, puis le show devient populaire parce que il y a cette vedette-là, puis les gens sont intéressés par cette personne-là, forcément. T'sais, ça amène des gens parce qu'il y a un nom. Mais lui, il voulait vraiment pas que ça soit ça. Il voulait vraiment que le show devienne populaire parce que les gens s'attachent à toutes ces personnes-là, puis découvrent toutes ces personnes-là, puis qu'ils soient pas juste comme « Hey, c'est Charles Lafortune qui fait le Carl le 4 Charrette, tu sais. » C'était comme... Fait que ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est vraiment pas un discours qu'on entend, puis c'est aussi une prise de risque de mettre c'est juste vrai. Des nobody, tu sais. Tu prends un risque que les gens l'écoutent, c'est un facteur de moins de l'écouter, tu sais. Ils l'écouteront pas parce qu'il y a une vedette, il y en a pas.
Oui, c'est ça. Ils vont pas écouter le nouveau projet de Patrick Huard, ils vont écouter comme...
La nouvelle émission.
Oui, c'est ça, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis maintenant que tu en parles, c'est vrai que je connaissais pas ces gens-là avant.
La seule qui était connue, c'est celle qui faisait Jocelyne, Micheline, mais elle faisait du théâtre en France puis en Europe. Elle était très connue aussi au Québec, là, dans le milieu du théâtre. Mais toutes les autres, là, ils sortaient de l'école ou, tu sais.
Mais le public cible de cette émission-là, la connaissait pas, là.
Non, non, exactement, exactement.
C'est ça, nous, on la connaissait pas, cette comédienne-là.
Non, du tout.
C'est quand même incroyable. Mais, et quelle comédienne! Quelle comédienne!
Ben oui! Puis elle faisait vraiment rire, en tout cas, juste un petit aparté là, dans ce moment-là, parce que tu sais, elle est habillée comme la chienne à Jacques là, dans Radio Enfer. Puis sa mère, Jocelyne, la mère à Jocelyne, à Micheline, elle l'appelait à chaque semaine, puis elle était comme, mais t'es donc ben la niaiseuse dans cette émission-là! Là, elle était comme, ben c'est le but! Puis, comment elle est habillée? Non, mais ça n'a pas de classe! Puis comme sa mère, elle ne pouvait pas concevoir que c'était ça, là, tu sais, c'était une dame de théâtre, puis elle faisait, là, elle arrive dans cette émission-là pour jeunes, puis elle est habillée, puis elle fait la conne avec des expressions. Yo, les jeunes! Sa mère était sans connaissance. Fait que je trouvais que c'était du bonbon.
Mais c'est tellement parfait. C'est tellement bon. C'est tellement un des personnages qui m'a le plus marqué là, de la télé, pour vrai.
Vraiment.
Je voulais juste revenir sur le fait. C'est ça, du casting, puis qui est populaire et qui ne l'est pas. Malheureusement, Jackie Collins n'écrira plus de romans. Si elle en écrivait un aujourd'hui, on serait obligé de parler d'Instagram. Parce que ça, c'est une chose... Moi, les deux brumes sont tombées à terre quand j'ai appris ça. Là. Des comédiens sont castés selon le nombre d'abonnés Instagram qu'ils ont.
Ah, ouais.
S'il y a quelqu'un... qui en a moins. Je pense que c'est Maya Hawke, la fille de Ethan Hawke et de Uma Thurman qui parlait de ça. Elle s'est fait dire, OK, si t'as pas Instagram, moi, à côté, je suis obligé de caster du monde qui ont plus de followers parce qu'il faut arriver à un nombre total, tu sais, avec toutes les personnes qui sont dans le... Puis moi, pour moi, ça me rentre pas dans la tête que nous autres, là, qui suivons du monde, parce que soit on les trouve cute, soit ils ont fait une joke qu'on a trouvé drôle, puis on les suit. C'est ça qui décide d'une carrière de quelqu'un. Moi, ça me rentre pas dans le temps. Et au Québec, apparemment, c'est ça aussi. Je me souviens plus c'était qui, mais il y a un comédien qui parlait du fait que lui, il voulait pas être sur les médias sociaux. Et c'était vraiment ça lui mettait des bâtons dans les roues, parce que c'est quelque chose que les producteurs regardent.
C'est incroyable. Je pense que je suis aucune vedette sur ça. Comme, c'est sûr que, tu sais, nous, on est dans une branche très nichée, la littérature. Puis, tu sais, moi, je suis quasiment uniquement des gens qui parlent de livres. Là. Fait que, tu sais, je ne suis absolument personne, tu sais, Chad Michael Murray, là. Je m'en fous de sa vie, là. Je veux pas connaître sa vie. Je veux le voir dans un film, tu sais. Fait que je trouve que le parallèle, pour moi, je suis peut-être la seule personne au monde. Peut-être que les autres, ils font tout ça, mais moi, je trouve pas ça conséquent.
Non.
Parce que la vraie vie, justement, je fais tellement de distinctions entre la vraie vie puis les émissions que je voudrais le suivre sur Instagram? Pourquoi je voudrais savoir sa vie? C'est pas ça que je veux. Je veux qu'il me fasse pleurer lorsqu'il joue dans One Tree Hill.
Ouais. Ben moi, j'aime ça suivre les personnes que je vois sur scène. Là.
Ouais.
Mais ça, c'est parce que je vais être au courant des prochains projets. T'sais.
Oui, c'est ça. Ce qui, tu sais, j'imagine, lorsque tu suis des gens, c'est à ça que ça sert aussi, parce qu'ils vont faire la promotion, mais... Mais en même temps, la plupart du temps, ils parlent aussi de toute leur vie, ça devient du lifestyle, tu sais.
Ouais. C'est particulier quand même, c'est particulier comme ambiance. Puis tu sais, je me disais aussi, tant qu'à réfléchir à ça, là, si on devait écrire un roman de Jackie Collins en 2025, c'est ça, il y aurait Instagram qui aurait une grosse place, puis malheureusement, le côté dark de Hollywood, ce ne serait pas juste des infidélités, ça serait des sacs de pédophiles. Ça serait beaucoup plus difficile de faire. Tu sais, en 2025, après tout ce qu'on sait là, sur hashtag MeToo, sur les sacs de pédophiles, sur tout ce qu'on sait, c'est plus drôle de lever le voile sur les dessous de Hollywood. T'sais.
Non. C'est difficile de le rendre drôle, en tout cas.
C'est ça, c'est difficile d'être divertissant avec ça, c'est plus révoltant, tu sais.
Ouais.
Enfin, bref.
Yikes.
Mais ceci étant dit, Flashback 1983, excellent, excellent petit livre. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur Hollywood Wives?
On a tout dit.
On a tout dit et même plus.
Oui.
Je vais essayer de switcher les choses et ne pas terminer avec la pub. Je vais faire la pub en milieu pour vous donner rendez-vous à la fin du mois. Le livre de ce mois-ci pour le Club des Mentis, c'est La Nuit de Elie Wiesel. Donc, moi, j'ai fait l'erreur de l'avoir en anglais, mais il a été écrit à l'origine en français. Mais nous allons nous donner rendez-vous la semaine prochaine, Maps, parce qu'on va parler de un dimanche à la piscine à Kigali dans notre autre série.
On a des projets.
On a plein de projets. Mais notre série dans laquelle on lit tous les gagnants des prix du libraire du Québec. Non, je le dis tout le temps mal. Le prix des libraires du Québec. Et ça, c'est le gagnant de 2001. Donc, on est rendu là dans notre side quest. On va lire ça et on en parle la semaine prochaine. Donc, jeudi à 20h et le 24 juillet à 10h, on va parler de La Nuit.
Maintenant, le 24 août.
Le 24 août. Le 24 août. C'est vrai, on est rendu là. C'est le 20. Ouais. On est rendu au mois d'août. Alors, dis-moi, quelle est ta recommandation culturelle, Maps?
Écoute, Sylvain, en ce moment, j'écoute un livre sur Audio, hein, plateforme, ma foi, géniale. Puis, ça s'appelle « Amqui » d'Eric Forbes. C'est un livre, ma foi, qui me sort absolument de ma zone de confort. Les livres avec la plateforme Audio, qu'est-ce qu'ils ont de particulièrement génial? Puis, on avait un petit peu parlé, lorsqu'on avait parlé de baignade, c'est que la musique, les sons, le bruit de tout ça est exceptionnellement terrifiant. Et Amqui, c'est l'histoire d'un gars qui sort de prison. Il me reste une trentaine de minutes à lire. Je ne sais toujours pas c'est quoi son but à ce gars-là, mais il y a au moins 15 personnes qu'il a tuées. J'ai entendu des guns partout. J'ai entendu des corps se croquer, des bruits de succion, en tout cas, tous les bruits possibles et imaginables. Puis, tu sais, à chaque chapitre, ça finit un peu comme sur un punch ou sur, tu sais, quelque chose de fort. Puis là, il y a la grosse musique. C'est, ma foi, complètement déstabilisant. Je pense pas que c'est quelque chose qui est dans mes cordes, mais la vie des gens qui se tuent et qui la mafia, la police, les politiciens... achetés ou qui sont truqués ou qui sont dans la magouille. En tout cas, c'est toute une expérience. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait intéresser les gens. Je vous dis, allez-y. C'est vraiment une expérience sensorielle, déstabilisante que je vis, qui ne m'en reste pas gros. Ce n'est pas un trop gros livre. Il me semble que c'est un 4 heures d'écoute. Là. Fait que voilà dans quoi je suis. Mais ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le détour parce que c'est juste pour l'expérience. Tu sais, j'ai l'impression de voir un film. C'est tellement bien fait par le son, tu sais, que comme il manque pas grand-chose. Le visuel, je le vois dans mes yeux. Puis c'est Patrice Robitaille qui fait la narration. C'est quand même bien fait. Il y a beaucoup de monde. Il fait plein de voix, des voix de femmes, des voix d'hommes. Il change de voix pour tout ça. Puis il y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre-là. C'est des personnages. Il y a comme un vieux enquêteur, comme toujours, hein, un peu sa boisson, puis désagréable. Mais il y a comme des clichés, mais ma foi, ça fait pour le divertissement.
OK, OK, super. Tu me donnes vraiment envie de l'essayer. Je vais l'essayer. D'ailleurs, j'ai jamais travaillé avec M. Forbes, c'est ça son nom?
Oui, Eric Forbes.
Eric Forbes. J'ai jamais travaillé avec lui, mais je sais qu'il a travaillé au même endroit où je travaille actuellement. Donc,
C'est pour voilà. Ça qu'à Mané, il se passe des trucs à Passe Versailles. Il y avait des mafiosos dans le coin.
C'est ça. C'est ça. Moi, je veux vous parler de L'âme délivrée, qui est un livre de, je vous donne l'auteur, là, Michael Alan Singer. Ça aussi, c'est quelque chose que j'écoute à l'audio, mais c'est très bien disponible en papier. Et c'est, en fait, je ne savais pas trop de quoi vous parler. Puis en ce moment, c'est un peu ce livre-là qui me donne un petit peu de bonheur, vous savez, j'ai un petit côté un petit peu plus spirituel, travail sur soi et tout ça. Puis ça tombe vraiment là-dedans. En anglais, c'est Untethered Soul. Et c'est vraiment très populaire comme livre. Moi, je viens juste de commencer à l'écouter. Puis, ben, en fait, il me reste, je vais vous dire ça avec exactitude, une heure à écouter. Et c'est vraiment le fun. Je trouve qu'il a vraiment une façon d'aborder les thématiques, d'aborder les problèmes qu'on se crée nous-mêmes. Tu sais, il va te dire d'en face, là, « Hey, si tu veux arrêter de fumer, là, tu sais que faut juste que tu n'amènes pas de cigarette à tes lèvres. » C'est comme, tu sais, il y a vraiment une approche très no-nonsense, là, tu sais, il y a vraiment une approche très directe. Il y a vraiment une belle métaphore sur les blessures. Donc, il parle d'une épine là, que tu aurais au bras, puis tu sais, tu as deux choix. Soit tu la laisses là, soit tu l'enlèves. Puis si tu la laisses là, ben, tu vas passer le reste de ta vie à faire attention, à essayer de créer des choses, des inventions pour pas que ça te fasse mal, puis tu sais, tourner autour, puis tu vas passer ta vie à t'en soucier. Alors que si tu l'enlèves, tu vas éventuellement guérir. Ça va faire mal, puis éventuellement, tu vas guérir, puis tu vas t'en remettre. Bref, c'est rien d'excessivement original. C'est rien qu'on n'a pas déjà lu ailleurs, mais c'est juste super bien dit. Fait quand on a besoin de se faire rappeler ces choses-là, ben je trouve que c'est un beau livre, et j'aime beaucoup son approche.
Intéressant.
Et maintenant que la pub est faite, on n'a plus rien à dire.
C'est la fin.
C'est la fin. Ben merci Maps d'avoir lu les dessous de Hollywood et d'avoir
voulu en parler avec moi.
C'est très le fun. C'est vraiment un beau plaisir coupable. D'ailleurs, si vous êtes intéressé et si toi tu es intéressé, bonne chance pour trouver les livres de Jackie Collins en français. Ils sont tous épuisés. Donc c'est vraiment bibliothèque ou librairie de livres usagés, là. C'est vraiment les options qu'on a, parce qu'en français, c'est dur, puis même qu'en anglais, malheureusement, depuis son décès, là, on était chanceux. Hollywood Wives, c'est le 40e anniversaire, fait qu'il y avait une nouvelle édition, mais malheureusement, elle n'est plus là pour faire vivre son œuvre, et ça se fait ressentir, donc, mais je trouve ça très dommage, et vraiment, je l'ai déjà dit, mais je le répète, les fans de Taylor Jenkins Reid, lisez Jackie Collins. Vous allez avoir du fun, je vous le dis.
Oui, je peux comprendre la vibe.
Bref, vous lisez-le, haïssez ça, puis venez me le dire. Moi, ça va me faire plaisir de vous écouter. Bref, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, Matt. Merci d'avoir été là.
À la prochaine,
ma chouette.